Chapitre 3. Le lendemain, Hélène, accompagnée de son mari qui portait la valise, s'en alla prendre le train pour Bédarieux, le premier train, celui de 7 heures. La ville s'éveillait lentement dans la brume que chassa bientôt le rayon du soleil. Sous la halle, les marchands installaient leurs éventaires. Toutes les boutiques, sauf celles de l'alimentation, étaient encore fermées. Monsieur Pouget, ayant déjà servi les revendeurs des villages, s'était enveloppé de son épais manteau à capuchon et, le lorgnon d'or sur le bout du nez, il lisait, dans une encoignure de sa vitrine, la revue des deux mondes. Par les rues, des enfants, cartable au dos, montaient à l'école laïque ou au collège. Au fond de la rue Conti, on entendait le tapage du service de la voirie, les cahots de sa lourde charrette boueuse, qui cherchait querelle aux passants et leur donnait des leçons de politesse. Des ménagères, des vieilles balayaient le devant de leur maison, d'autres, les jeunes, agréables en leur blanc caraco, les cheveux en désordre, les yeux battus de sommeil, se rendaient en pantoufles chez le boulanger, choisir des petits pains bien dorés pour la trempette dans le bol de café. Les unes et les autres affectaient de ne pas apercevoir Madame Lagrifoule, mais une fois qu'elle était passée, la plupart, surtout celles de son âge, se retournaient pour la suivre des yeux sur le chemin de la gare. Quelques-unes, cependant, l'interpellèrent au passage. « T'es, madame, vous nous quittez ?»« Oh, pas pour longtemps !»« C'est drôle, au premier de l'an ?»« Eh oui, affaire urgente !» Et toutes ces dames si gentilles comprenaient qu'il s'agissait de trouver de l'argent pour ce coûteux magasin du Petit Paris. À la gare, Lagrifoule, qui tremblait de chagrin, n'en finit plus de dire à Hélène ses conseils et ses prières. « Ne t'éternise pas à Cornio, mamie. Tu pourras certainement dans 48 heures régler notre destin, continuer le commerce ou nous démettre. »« Que tu es découragée dès le premier obstacle !»« C'est vrai. Aussi, je t'admire, mamie. Tu me révèles un caractère énergique et positif que je ne soupçonnais pas. » Il ne faut jamais se fier aux apparences. Allons, adieu, voici le train. » Elle l'embrassa sur les deux joues, de même qu'un enfant. Il s'efforçait bien de sourire, par tendresse, avec une gratitude infinie, mais l'angoisse lui serrait le cœur comme dans un étau. Quand le train eut disparu là-bas, dans la campagne déserte qu'enchantait le joli soleil d'hiver, Lagrifoule, sur le quai de la gare, eut un mouvement de vertige. Mais il comprit soudain l'imprudence de trahir devant le monde ses tristes préoccupations. Et, poussant un soupir, le front bas, tel qu'un vaincu, il s'en revint chez lui dard. Hélas, par une de ces coïncidences étranges qui ne nous paraissent un mystère que si nous ne les expliquons pas, tandis qu'Hélène prenait à Husclas le train pour Bédarieux, Galizard, à Bédarieux, sans prévenir qui que ce fût, prenait le train pour Husclas. De sorte que les deux convois se croisèrent en route. Galissarde n'avait pas revu Hélène depuis le jour de son mariage. Seulement Hélène, dans ses lettres, lui vantait si fort le Petit Paris qu'impatiente de connaître cette merveille, elle n'avait plus résisté, en cette veille du premier de l'an, au désir de descendre de sa montagne. Seulement, elle entendait bien ne pas être à la charge de sa fille. Elle apportait dans des corbeilles étroitement ficelées des œufs, de la volaille, du beurre et des pots de confiture. Aussi, chargée d'un si pesant fardeau, s'arrêtait-elle parfois sur le chemin de la gare d'Husclas à la ville pour respirer un peu. Elle n'arriva qu'avant midi à la halle, toute rouge, trempée de sueur, mais si contente. Là, sur le carreau, il y avait Vignal qui, au milieu des camarades Pouget, Courtel, Julien, plaidait la nécessité, afin de rajeunir le quartier, de repeindre toutes les boutiques. Évidemment, Vignal, pas plus que les autres, ne soupçonnait l'absence de Madame Lagrifoule, qui était partie de si bon matin. Le premier, il reconnut la montagnarde de Cornioux, et, levant les bras avec une joie d'écolier, il s'écria « T'es, Galissarde, en voilà une, par exemple, et où tu vas comme ça, Galissarde ?»« Tu le demandes, sacripant ?» « Je vais au Petit Paris. Où est-il »« Quoi? Tu ne le vois pas? C'est pourtant écrit en grosses lettres. »« Oui, c'est vrai, et des lettres cousues d'or, s'il vous plaît. » Monsieur Fornet s'était approché, sournois, rasant les murs. « Bonjour, Galissarde. Nous sommes toujours amis, je pense. »« Toujours, monsieur Fornet. Et alors, ça va bien ? Fornet, ses petits yeux à l'abri du chapeau tyrolien, examinait de bas en haut l'énorme galissarde. Allons, allons. Et vous êtes venu voir le petit Paris ?
Il faut bien, Pécaïre, répondit Galissarde, qui déposait les corbeilles à ses pieds.
Au mariage de mon Hélène, la maison était construite, oui, mais le magasin n'était pas organisé, et il ne me disait pas comme à présent.
Eh bien, à présent, la maison me paraît haute, trop peut-être.
Vous n'avez pas tort, Galissarde, la hauteur excessive de cette maison dépare l'harmonie de la place.
Non, protesta Vignal, jamais trop haut. Il n'y a qu'à démolir les autres maisons, si vieilles qu'elles ne tiennent debout que par miracle. Suivons le progrès, que diable.
Toi, tu ferais mieux de travailler à mon magasin.
Galissarde, savez-vous que les agrifoules me font concurrence?
Pourquoi?
Eh, puisque nous vendons les mêmes choses. Ils ne sont pas gentils. Quand même, tout s'arrange.
Oui, monsieur Fornet, il n'y a que la mort qui ne s'arrange pas.
Des badauds s'aggloméraient autour de Galissarde, et tous la reconnaissaient avec sympathie. Mais que venait-elle chercher à Usclas? Se flattait-elle, par hasard, d'empêcher la débâcle du petit Paris, qui n'avait pas tenu longtemps ses magnifiques promesses?
Ah, maugréa-t-elle, je ne suis pas descendue de mon corniou pour entendre des discours.
Brave, hissant deux de ses corbeilles sur une épaule, assujettissant la troisième sous un bras, elle se dégagea, non sans peine, de la tourbe des badauds et se rendit au petit Paris. Point de client, le magasin somnolait dans une paix morne. Là-bas, dans son coin, à son bureau de patron, l'agrifoule hocha la tête dès que retentit le timbre de la porte. Tout d'abord, il ne distingua pas très bien la personne qui entrait gaiement, coiffée d'un foulard à carreaux blancs et rouges, chargée de lourdes corbeilles. Puis, dans un grand effarement, il se dressa.
« Ouais ?» demandait Galissarde à la caissière. « Où qu'ils sont, les lagrifoules ?»
Lagrifoule, haletant d'émotion, s'empressa.
« Mon Dieu, Galissarde, c'est donc vous ?»«
Pardi que c'est moi. Vous ne m'attendiez pas ?»«
Peu cher, non. Vous auriez dû écrire. »«
Oh, mon petit, toujours écrire ?»
Non, il vaut mieux venir.
Et mon Hélène, où est-elle ?
L'agrifoule, navrée de douleur, prit les mains chaudes de Galissarde, qui ne cachait pas non plus son ahurissement, et lui dit en un sanglot :
Quelle malchance !
De quoi ? Hélène, où elle est ?
Justement, elle est allée ce matin à Cornioux.
À Cornioux ? Et pourquoi ?
Pour vous voir, fit-il avec embarras.
Alors, je m'en reviens à la montagne. Qui fera-t-elle sans moi ?
Non, vous ne partirez pas, au moins pas encore.
Tais, c'est l'heure du dîner, on va fermer le magasin. Montons.
Et qu'avez-vous dans ces corbeilles ?
Pour manger, que j'étais si contente.
Ah, quelle misère !
Enfin, tant pis, on mangera un morceau avec plaisir.
Ah, mes paquets !
Elle tint à les porter, elle seule, comme des trésors, jusqu'au bout. Là-haut, dans le salon, elle s'extasia devant les élégances du mobilier et tant de parures qui débordaient sur les murs et les tapis. Mais bientôt, elle remarqua la mine affligée du petit lagrifoule, presque muet, qui se grattait la barbe ou clignait des yeux sous le lorgnon. Alors, pendant que la bonne, qui tout à l'heure s'était emparée des corbeilles, préparait maintenant le dîner, Garissard interrogea sans gêne le patron de séance.
« Que se passait-il ? Tu es si triste !»
« Je n'irai pas par quatre chemins, » répliqua l'agrifoule avec la même franchise. « Vous vous rappelez la banque Gauzy ?»«
Si, je me rappelle. Même, j'ai donné de mon lait à sa fille. »«
Eh bien, la banque a sauté. »«
Oh, mon Dieu !»«
Oui, et Gauzy s'est tué. »«
Mon Dieu, mon Dieu !»
Ma mère lui avait confié toutes ses économies et la banque me soutenait par des avances. « Alors voilà !» Mon affaire ici est compromise.
Tu plaisantes ? Ce magasin, ces marchandises ?
Je dois à peu près tout, et pas de ressources. Ma clientèle, qui était si nombreuse, diminue tous les jours.
Pourquoi ?
Parce que le bruit court, que j'étais de connivence avec Gauzy, que je savais sa ruine menaçante, et que ma mère est la seule personne à qui le banquier ait remboursé son argent.
Tout ça n'est pas vrai, je suppose ?
« Mille fois non. Et il m'est impossible d'arrêter ce méchant bruit.
D'autre part, à qui demander du secours? Mes beaux-parents n'ont pas le sou. » La Griffoule, les mains jointes, en humble imploration, s'inclina doucement, tout proche de Galissarde, qui devenait rouge d'appréhension, car elle devinait enfin les intentions de la Griffoule. « Hélène est donc partie à cause de la misère ?»« Pas précisément. Elle a dit que sa nounou l'a toujours aimée. »« Pour ça, oui. Je l'aime plus qu'un enfant à moi, puisque je les ai tous perdus. » »« Elle a voulu aller à Cornoux solliciter votre assistance. » « De quelle assistance suis-je capable, moi ?» La Griffoule, refoulant tout scrupule, répondit précipitamment. « Vous ne faites rien de votre argent. Vous nous prêteriez une somme assez forte qui serait bien placée. » Galissarde, les mains sur la tête, jeta les hauts cris. « Moi, de l'argent? Comment voulez-vous ? » « Vous avez aussi des terres, des troupeaux. Vous prendriez une hypothèque sur le Petit Paris. » C'est M. Lugagne qui est syndic de la faillite du banquier. M. Lugagne, je le connais beaucoup. Il est gentil, pas fier. Vous viendriez vivre avec nous, ici, dans Musclas. Allons, Galissarde, vous ne permettrez pas qu'on nous déclare en faillite, nous aussi. Jamais je ne quitterai ma maison de la montagne à mon âge. Et puis, une faillite, ce n'est pas la mort. On en revient. Et donc un peu de sang-froid, mon petit. Tout de même, le chagrin que son Hélène connut une si affreuse détresse troublait le cœur simple de Galissarde. Et comme la Griffoule, accablée par le désespoir, baissait le front, elle lui mit une main sur l'épaule et dit « Tais, je ferai quelque chose !» À cette lueur d'espérance, il se releva tout radieux. Aussitôt, Galissarde, regrettant de lui avoir à son insu donné une illusion, le détrompa loyalement. « Prêter, non !» « Mon bien, c'est ma vie. Seulement, j'irai voir M. Lugagne pour un arrangement. La démarche sera inutile. Nous verrons. » Sans rien céder de sa résolution, Galissarde détourna l'entretien. Devait-elle, ce soir même, remonter à Cornoux ou attendre Hélène? Elle consentit à attendre parce que, sans doute, Hélène s'empresserait de rentrer à Usclas. Ce fut déjà une satisfaction pour la Griffoule qui, depuis son malheur, se contentait de peu. D'ailleurs, avait-il tort de penser qu'Hélène serait auprès de sa nounou plus éloquente que lui? Après dîner, lorsque Galissarde eut rangé dans les placards de la cuisine son beurre, ses œufs et ses volailles, elle s'en fut dire bonjour au charmaçon. Elle savait qu'il ne fallait guère les tracasser dans leur paisible pénombre. Pourtant, ils l'accueillirent de bonne grâce, avec une sorte de gratitude, comme si elle eût apporté de sa montagne un élément de réconfort. « Et cette Galissarde, quelle surprise !»« Oui, monsieur, madame, j'étais si heureuse ce matin, et voilà qu'Hélène se trouve chez moi. »« Pécheur, elle est partie parce qu'ils ne brillent pas beaucoup dans leur magasin. La banque a sauté. Oh, peut-être qu'on pourra arranger quelque chose. » Les charmaçons, se méprenant, eux aussi, sur les intentions de Nounou, la regardèrent avec admiration, mais sans trahir leur curiosité davantage. « Bah ! » dit-elle, « ils sont trop jeunes pour ne pas avoir raison de tous les ennuis. Ah ! Je vous quitte, j'ai pas mal d'ouvrages. » Ils la reconduisirent jusqu'au bord du trottoir, ce qui éveilla l'émotion du voisinage. De son grand pas lourdeau, Galissarde, les bras ballants, se dirigea du côté de la rue Saint-Jean. Devant l'épicerie Pouget, elle fut bien obligée de s'arrêter un moment, ayant quelques curieux à ses trousses, Vignal tout le premier, qui, sans vergogne, l'interpella. « Tais, où vous allez, Galissarde ?»« Me promener, mon ami. »« Quelle coquine, qui est toujours la même. Vous venez de si loin pour vous promener dans Musclas. Enfin, qu'est-ce que vous pensez de ce pauvre la Griffoule ? Qu'est-ce qu'il a fait ?» La banque a sauté et le Petit Paris n'a plus de monde. Le monde reviendra. Ainsi, point d'alarme. Ils ne risquent rien. Ils sont riches. Quand elle passa en vue de la boutique Fornay, au moment où elle s'apprêtait à tourner l'angle de l'église, le vieux boutiquier la salua de son bonjour, puis s'esclaffa d'un rire moqueur. Galissarde dédaigna d'y faire attention, tant elle était pressée. À la boulangerie, maman la Griffoule, assise dans son coin comme dans une niche, sommeillait sur sa chaise basse. Au bruit de Galissarde, elle s'ébroua mollement, et de même que si elle l'avait vue la veille, elle gronda Tais, c'est toi ? Depuis quand es-tu à Usclas ?
Depuis midi et pas pour longtemps.
Que dis-tu de ces histoires de la banque ?
Que dis-tu de ces histoires de la banque ?
Maman la Griffoule ne désespérait pas tout à fait du relèvement de ses affaires parce que, au lieu de l'informer des détails de la faillite, on la bourrait de mensonges les plus agréables.
« Bah !» répondit Galissarde, « les histoires d'argent s'arrangent toujours. Il n'y a que les morts qui restent morts.
Tout de même, qui aurait cru ça de Gauzy ?
Un banquier, ça monte, ça descend, comme les gobelets d'un puits à roues.
Juste, je vais à la banque, savoir s'il n'y a pas moyen d'apprendre quelque chose de précis. L'argent des dépôts est-il complètement mangé, oui ou non ?
Bon courage, Nounou ! »
Nounou fut bientôt rendu sur le planol à la maison Gauzy. Hélas, frappe que tu frapperas, pas de réponse. Le syndic Lugagne était-il absent, ou bien avait-il décidé de n'ouvrir jamais à qui que ce fût ? Car du matin au soir, des victimes de la banque accouraient, de la ville ou de la campagne, cherchèrent auprès du syndic, sous différents prétextes, un menu grain d'espérance. Lasse de frapper en vain du heurtoir de cuivre, Galissarde s'en retourna vers la porte Saint-Jean. Tout à coup, au seuil de la rue, lui vint l'inspiration merveilleuse que, sans doute, elle obtiendrait un renseignement de cette pie de Madame Lugagne, avec laquelle, autrefois, elle s'accordait assez bien. Tout contre la boulangerie de Maman la Griffoule, dans une large encoignure, s'élevait la splendide demeure d'un seigneur du XVIIe siècle, une demeure en pierre de Beaucaire, fenêtres à meneaux, solennel escalier à colimaçon. Les Lugagne habitaient l'appartement de l'entresol que fermait une porte à deux battants. Galissarde tira le cordon de laine jaune effilochée. Madame Lugagne ouvrit nonchalamment, revêche d'abord, presque méfiante. Galissarde entra dans la pièce spacieuse que deux hautes fenêtres emplissaient d'une riante lumière. Madame Lugagne, petite, maigre, figure ridée à nez crochu, à pétillants yeux de souris, avait été surnommée Madame Agar à cause de sa grandiloquence et de sa voix formidable.
« Tais, Galissarde, d'où sortez-vous ?
Je venais voir Hélène. Ah, la pauvre !
Allons, asseyez-vous, là, près de cette fenêtre, dans ce fauteuil. »
Quelle joie pour Madame Agar d'avoir une occasion de long bavardage. Seulement, dès les premiers mots, elle saisit le profond dessein de la rusée montagnarde.
« Hélène n'est pas heureuse par la faute de Monsieur Gauzy. Croyez-vous qu'on ne trouvera rien dans la caisse de la banque ?
Comment voulez-vous que je sache ? Mon mari ne me dit rien et c'est son devoir.
Oh, les femmes sont si fines qu'elles devinent tout de leur mari.
Pas moi. Non, laissez-moi tranquille.
Madame, je ne répéterai rien à personne. Je rentre dans ma montagne.
Non, non. Est-ce que déjà on ne nous accuse pas de trafiquer dans cette faillite ? Mon mari serait un voleur.
Oh ! Qui dit ça ?
Je ne sais pas, on ne sait jamais. Ça bourdonne, ça vole.
Ah !
Madame Lugagne s'était levée d'un bond, la peau en feu, et parcourant la salle à grands pas courroucés, agitant les bras, elle retentit de sa voix terrible.
Mon mari, un voleur, on n'y songe pas. Toucher à mon nom ?
Pas moi, pécaïre. Madame Lugagne n'écoutait pas les protestations de Galissarde. Elle continua.
On oublie que j'ai du sang royal dans les veines, et que, si nous sommes des pauvres, nous sommes aussi des aristocrates. Dans tant de vérifications de faillite et de millions d'argent, mon mari ne gagne que notre modeste vie. Oui, retenez ceci, Galissarde, mon mari ne possède pour tout bien que la casquette qu'il porte sur la tête.
Madame Lugagne n'en pouvait plus. S'épongeant le visage, elle s'assit en face de Galissarde, qui, dans son fauteuil, restait bouche bée, elle qui, cependant, ne s'intimidait pas facilement.
« Non, Galissarde, je ne sais rien, et vous êtes la 50e ou 60e personne qui essaie de m'arracher un secret.
Pardi, tout le monde s'inquiète, ce n'est pas amusant de perdre sa fortune.
Oh, je suis bien sûre qu'il en reste encore la Griffoule. »
Galissarde, par orgueil, ne contredit point la flatteuse supposition de Madame Lugagne. Même en sortant, elle fouilla les poches profondes de son tablier comme si elle y eût remué des louis d'or. Le fait est qu'en ville, on croyait de plus en plus que la Griffoule, complice de Gauzy, avait pu, du naufrage, sauver son bien. À présent, la visite de Galissard chez les Lugagnes n'allait pas manquer de surexciter les médisances. Au Petit Paris, point de clients. La caissière et la vendeuse se rongeaient les ongles. Le patron s'était réfugié là-haut, dans son atelier si calme qu'égayait la flamme du couchant. Galissard le trouva sur son tabouret, essayant, le pinceau à la main, d'oublier ses misères. « Tel, lui dit-elle, que fais-tu là ?»«
Le moulin de Rocamengarde. »«
Ça, un moulin ? Enfin, soit, ça te distrait. »«
Qui sait si mon talent ne me sera pas utile bientôt ?»«
Ne disons pas des enfantillages. Des peintres, il en vient par bande à Lamalou. Ils crèvent de faim, ceux qui n'ont pas quelque fortune. »
« Bon, je connais l'antienne, mais que rapportez-vous de chez le syndic ?»«
Rien. Lui, je ne l'ai pas vu. J'ai vu sa femme, Madame Agar. Elle est fermée comme un coffre-fort. En tout cas, tu es condamné à la ruine, à moins que tu ne vendes cette grande maison à Monsieur Fornet. »«
Jamais à Fornet. D'abord, il ne quitterait pas sa caverne. » »«
Enfin, arrange-toi. Quant à moi, je ne tolérerai pas qu'Hélène souffre. Tais, je partirai demain. »
« Demain, et si Hélène revient ici ?»«
Non, puisqu'elle est à Cornioux, elle m'y attendra. Là, je la garderai jusqu'à ce que tu aies réglé tes affaires. »«
Et combinaison commode, mais pas pour moi. Oui, à moi tout le fardeau. »«
Pardi, tu es responsable. »
La griffoule lui tourna le dos et, dans la suprême lueur du jour, il se remit à barbouiller son moulin.
Galissard, en maugréant contre ce nigaud, descendit à la cuisine. Là, tout en rangeant les provisions qu'elle avait un peu le regret d'avoir apportées, quel plaisir elle eut de jacasser avec la bonne, Ursule, et de s'informer des commérages du quartier. Le lendemain de grand matin, elle s'en alla seule à la gare prendre le train de Bédarieux.